Midi.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Des héros de cartoon qui jouent une partition virtuose de Franz Liszt, ce sont autant d'occasions d'enchaîner les gags les uns après les autres, de dessiner un relief dans la partition, relever certains rebonds pathétiques comme des occasions de chasser une souris qui se baladerait sur le piano. Bref, de tendre et d'étendre les humeurs musicales en synchronisant une somme d'événements qui ne s'enchaîneraient sans doute pas si vivement sans la vitalité pianistique qu'ils tapissent. Dit comme ça, le point commun entre la musique classique dans les cartoons et la musique de cirque est frappante quand l'orchestre et le déroulement du spectacle s'emboîtent si bien que l'un se synchronise avec l'autre jusqu'à ne pas savoir lequel précède. La musique et la trame narrative s'activent alors comme deux moteurs enchevêtrés pour une même dynamique à la fois virtuose et spectaculaire. Pour croiser les perspectives entre la musique classique qui inspire des synchronisations millimétrées dans les cartoons et la musique de cirque, nous recevons deux musicologues, Philippe Gonin, dont deux études sur la musique dans les cartoons sont accessibles via la page de l'émission sur metaclassique.com, et Marc-Antoine Boutin qui prépare une thèse sur la musique de cirque aux universités de Montréal et de Paris-Sorbonne. L'air Yankee Doodle, qui est maintenant et couramment beaucoup interprété par des orchestres militaires américains qu'on entend pour les anniversaires de la fête de l'indépendance le 4 juillet aux États-Unis, mais qui est un air qu'on entend beaucoup dans les cartoons. Bonjour Philippe Gonin.
Bonjour.
Comment se fait-il qu'on l'entende celui-là en particulier beaucoup ?
Oh, je crois que c'est une des représentations de la civilisation américaine quelque part. Il y en a un autre qui s'appelle Dixie aussi, celui qui fait ta-da-da-ta-ta-ta-ta-dam-tam-tam, qu'on entend énormément, qui était même devenu, je crois, l'hymne des États confédérés. Et ça fait partie de la culture américaine. Le cartoon est d'abord quelque chose qui est culturellement américain.
Donc c'est une manière pour les réalisateurs de nous dire, regardez, ces personnages, ils sont américains comme vous ?
Oui, et c'est surtout référent, je crois, pour les gens qui vont voir ça, parce qu'on est dans des cartoons qui sont... nous, on a l'habitude de les voir à la télé, mais ils étaient diffusés au cinéma. Donc, les gens allaient dans des séances de cinéma où il y avait deux films, où il y avait des attractions, des dessins animés, des informations peut-être... Enfin, j'ai pas le détail de toutes les séances, mais tout ça, c'était diffusé au cinéma, et il fallait que les gens se reconnaissent. On parle d'acculturation, souvent, et on est dans ce phénomène de créer une culture commune.
Et donc, pour créer une culture commune, on passe par une marche militaire qu'on met à toutes les sauces, c'est-à-dire pour tous les types de héros de cartoon, on la retrouve, cette mélodie.
Oui, mais dans des circonstances particulières. C'est-à-dire que souvent, quand on entend ou Dixie ou le Yankee Doodle, il y a quelque chose comme la fin d'un combat. Je revois une image, je crois que c'est Dixie et pas le Yankee Doodle, de Bugs Bunny dans un des cartoons qui vient de se battre avec je ne sais trop qui et qui revient avec une patte dans le plâtre et qui marche militairement en jouant de la flûte et en jouant l'un de ces deux thèmes. Donc il y a un rapport aussi à
c'est ça, c'est militaire. Au moment où ils ont surmonté quelque chose.
Exactement.
C'est pareil,
oui,
je crois que la Panthère Rose, à un moment donné, elle vient de gagner quelque chose.
Oui,
d'accord.
Oui.
Et puis, il y a donc le répertoire de la musique classique qui est mobilisé, mais un certain répertoire, autant dire les tubes.
Oui, enfin en tout cas, ce qui était des tubes à l'époque et qui le sont devenus. Il y a beaucoup de thèmes qui sont devenus des tubes, même en France. Je veux dire que Carmen est un tube en France au point que il y a quelques années, Ajax avait repris le fameux L'amour est un enfant, etc.
Pour une
pub, etc. Et je me souviens, parce que j'étais enseignant en collège, que les plus jeunes avaient ça comme référence, non pas le morceau original. Et un autre exemple, c'est lorsque je faisais écouter à des préadolescents, hein, des gens qui étaient en 6e, 5e, c'est-à-dire 12 ans, 13 ans, et que je mettais l'apprenti sorcier, pour eux, c'était Mickey.
C'est-à-dire c'était Fantasia.
Oui, Mickey avait gommé Paul Dukas, Et alors, je parle même pas de Goethe, qui était complètement gommé pour eux, mais c'était Mickey, donc cette musique, c'était Mickey.
Et alors, quand commence le cinéma, il est muet, ça veut dire que oui. Si on met de la musique, on la joue en même temps, donc elle n'est pas oui. collée au film, c'est-à-dire on peut en changer d'une projection à une autre.
Exactement, oui.
À partir du moment où le cinéma devient parlant, alors le cartoon peut avoir des musiques qui suivent l'intrigue.
Le cartoon a été d'abord muet, puisque le premier, c'est Steamboat Willie en 1928, qui a une musique synchrone de Disney.
Le premier à avoir une musique synchrone,
oui, oui,
1928.
Oui, c'est le premier. Je crois, il y en a eu un qui a été fait à peu près en même temps, mais le premier à avoir vraiment une musique synchrone, et synchrone d'un bout à l'autre, c'est-à-dire musique et bruit, au point qu'on va créer un terme qui va s'appeler, puisque c'est Mickey le héros, qui va s'appeler le Mickey Mousing, on reviendra peut-être
sur
l'expression.
Détail,
ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de dessin animé avant, ou de film animé avant, et qui était accompagné comme les films dits muets, c'est-à-dire avec un pianiste, ou peut-être un orchestre, enfin en tout cas un pianiste qui accompagnait ces films-là, et qui avait certainement ce qu'on appelait aussi des sheet music, c'est-à-dire des feuilles de musique qui correspondaient à tel ou tel caractère, qui pouvaient être des musiques originales d'ailleurs, composées par des compositeurs qui composaient des musiques un peu à la demande. Je veux dire, aujourd'hui, on a des banques de sons dans lesquelles vont puiser les réalisateurs de documentaires. Je pense qu'on pourrait presque comparer ça aujourd'hui. Enfin, il faudrait que j'étudie la question un peu plus près, mais on pourrait presque comparer ces sheet music à ça. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une musique dramatique. Dans mon catalogue, qu'est-ce que j'ai comme musique dramatique? Et on retrouve ces catalogues. Et je pense qu'on pouvait les utiliser pour les cartoons aussi. De la même manière qu'on les utilisait pour les films muets, les slapsticks ou des choses comme ça.
C'est des musiques qu'on avait évoquées dans l'épisode Émouvoir il y a quelques semaines de Méta Classique. On va écouter un extrait d'un cartoon de 1929 où on voit Mickey en virtuose interpréter la deuxième rhapsodie en croise de Liszt. Alors là, il a dévié de Liszt.
Oui, très souvent on dévie d'ailleurs. On va se servir d'une musique classique, donc tubesque. Hein, la deuxième rhapsodie en était un, tout comme le Barbier de Séville, tout comme la Pivoleuse, etc., qui étaient vraiment des morceaux qui étaient connus du grand public. Alors pour quelle raison, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas étudié la question de savoir pourquoi ces morceaux-là.
En tout cas, il y a une homogénéité historique. C'est que des morceaux des années 1820.
On peut aussi penser que, mais c'est une hypothèse hein, que j'émets là, parce que j'ai pas d'études scientifiques derrière qui viendraient appuyer ça. On peut penser aussi que l'enregistrement des musiques classiques a fait que certains morceaux sont devenus des tubes. Je crois entendre encore, par exemple, qui est tiré des Pêcheurs de Perles de Bizet, qu'on a un peu oublié aujourd'hui.
Je crois entendre encore.
Exactement, qui a été aussi chanté par Tino Rossi. Donc, on avait des tubes comme ça qui parcouraient un peu le parcours populaire aussi, et puis qui étaient, malgré tout, des airs relativement populaires dans leur construction. La Rhapsodie hongroise, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est quand même un morceau qui doit faire dans les 9 minutes en son intégralité.
Dans sa version listienne,
qui est forcément réduit sur les dessins animés, parce que les cartoons font en gros 7 minutes, et qu'on va reconstruire de toute façon. Mais, c'est pas moi qui le dis, c'est un auteur américain qui s'appelle Daniel Goldmark, qui dit que la construction même d'une rhapsodie, avec ses changements de mouvement, ses changements de thématique, cette construction comme ça un petit peu en morceaux rhapsodiques en fait, hein, fait que ça ne pouvait que intéresser un réalisateur de cartoon ou de dessin animé.
C'est très pratique pour monter justement.
C'est très pratique pour monter parce qu'on a des différences d'action, on a des choses plus lentes, des choses plus rapides, on a des choses qui vont partir un peu dans tous les sens. Et puis au milieu de tout ça, on va faire comme on vient d'entendre pour The Opry House, hein, qui est ce
cartoon de 1929.
Ce cartoon où apparaît Mickey, à un moment donné, on a des glissandi sur le clavier. Bon, à l'image, c'est le piano qui se redresse et dont le clavier devient une bouche avec des dents et qui rigole. Mais malgré tout, dans ce qu'on a entendu, on pourrait presque, dans la manière dont la musique et les bruits sont construits et font une bande sonore, on pourrait presque visualiser ce qu'on ne voit pas. Dans l'extrait qui est là, on peut s'imaginer ce qui va se passer. Je pense que les gens qui ne le connaissent pas et qui vont aller voir sur YouTube après cet extrait de Opry House vont se dire « Ah oui, tiens, j'avais à peu près vu cette image-là » parce qu'on va vraiment coller à l'action, vraiment coller au geste. Si quelque chose c'est qu'il y a quelque chose qui tombe. Ça peut pas être autre chose que ça.
C'est très figuraliste.
C'est très figuraliste, oui, c'est complètement.
C'est tant figuraliste qu'on va avoir presque une réorchestration visuelle, par exemple, de cette rhapsodie. Dans Rhapsody in Rivets, qui est de 1941, on va en écouter un extrait. Il faut se dire que les bruitages sont des marteaux qu'on cogne. Enfin, c'est comme par hasard l'année de l'invention de la musique concrète. Un an avant l'étude au chemin de fer de Pierre Schaeffer en France, on a fait donc cette version de la rhapsodie hongroise de Liszt. Vous nous disiez, Philippe Gonin, en citant Daniel Goldmark, que la forme rhapsodie se prête à cette séquentialité, mais on a aussi l'impression d'un emballement entre la musique et ce qui se passe à l'écran.
Oui, c'est-à-dire que là, on imagine très très bien, quand d'un seul coup la musique devient plus rapide, qu'il y a un emballement de l'image, parce qu'aussi on a l'habitude de voir des cartoons, donc peut-être qu'il y a un effet de mémorisation comme ça, et on se doute de ce qui se passe, mais quand on a le motif qui s'arrête, silence, il revient, silence, il revient, silence, à l'image, on a un des ouvriers qui est endormi et qui oublie de faire ce qu'il a à faire, son geste, on entend des choses, sont des marteaux-piqueurs. En fait, on a le contremaître qui agit comme un chef d'orchestre et qui va diriger tous ces ouvriers qui vont petit à petit construire un immeuble. Il faut s'imaginer que c'est un immeuble qui se construit comme les images qu'on voyait de ces constructions d'immeubles à New York, avec les ouvriers sur les grandes barres métalliques. Je ne sais pas si vous avez ces images en tête. Et c'est ce type d'immeuble qui est en train de se construire dans cette Rhapsody in Rivets. Donc on est en train de mettre des rivets un peu de partout pour construire un immeuble. Et toute la Rhapsody va servir de support j'allais dire presque rythmique à la fois que mélodique sur le rythme donné à cette construction, et petit à petit tout au long des 7 minutes que doit durer aussi à peu près ce cartoon là.
Bonjour Marc-Antoine Boutin.
Bonjour.
Vous préparez à l'Université de Montréal et à la Sorbonne à Paris, en co-tutelle comme on dit, une thèse qui travaille sur ce corpus particulier qui est la musique de cirque.
Oui.
Avant de parler plus spécifiquement de la musique de cirque, on va continuer ensemble sur les cartoons, mais on a une devinette à vous soumettre.
Okay.
Précisément, puisqu'on se demande si la musique peut nous permettre de déduire ce qu'on pourrait voir à l'image, on va vous passer un début de Rhapsody de Liszt. Et vous allez essayer de deviner quel personnage de cartoon peut bien l'interpréter. Il y a un gros indice. Alors ?
Bah, je dirais Bugs Bunny parce que j'ai l'impression qu'il mange une carotte.
Absolument. Et donc, Bugs Bunny, pianiste, se permet d'arrêter de jouer du piano pour manger une carotte.
Pour manger une carotte, complètement, oui.
Et alors, il y a un moment donné, il reçoit carrément un coup de fil, on va l'écouter.
List. Never heard of him. Wrong number.
Hello, C'est la seule fois que Franz Liszt est nommé dans tous ses cartoons qui comportent sa rhapsodie hongroise.
Oui, j'ai étudié le corpus quand j'ai préparé cet article sur la deuxième rhapsodie hongroise, un article qui a déjà quelques années, mais je crois que je n'ai jamais vu le nom de Franz Liszt mentionné sur aucun des génériques de tous les cartoons que j'ai pu voir. Hein. Il y a de Betty Boop. Alors parfois ce sont de brefs extraits, parce que ça aussi c'est intéressant, c'est que la musique des cartoons est construite d'un patchwork de choses. On peut passer du jazz à la chanson populaire, à la variété, à la musique militaire, Yankee Doodle, puis d'un seul coup un bout de Liszt, et puis du Wagner, et puis etc.
Là, on a entendu un bout de Figaro, voilà.
Et là, on a entendu un bout de Figaro, donc on a une intertextualité au milieu de tout ça. Et puis ce qui est rigolo, c'est ce coup de fil, où c'est la seule fois, à ma connaissance, où, de toute façon, de manière très claire, est cité Franz Liszt. Mais pour dire que non, je connais pas ce gars, c'est un faux numéro. Tout simplement.
Et alors, dans cet emballement entre la musique et l'histoire, il arrive que la musique dévie tellement qu'on bascule dans complètement autre chose. C'est le cas un peu plus loin dans ce même dessin animé. On va l'écouter. Alors, c'est pas Bugs Bunny lui-même hein, qui change de mélodie, c'est que...
Oui, là c'est plus compliqué évidemment si on n'a que le son, mais on passe donc de la rhapsodie à d'un seul coup une main gauche boogie-woogie qui est en fait la souris. Il y a toujours un élément perturbateur dans ces cartoons, et dans Tom et Jerry, pour le cas de Concerto, aussi bien que dans la Rhapsody Rabbit, c'est une souris qui est couchée dans le piano, et puis ça le dérange, quoi, ce type qui d'un seul coup fait du bruit dans sa demeure. Et donc, d'un seul coup, on a la souris qui commence à faire un... Le héros pianiste est bien entendu énervé au départ, mais finalement il se laisse avoir, et ce qui correspond à la main droite, c'est Bugs Bunny qui vient jouer, qui se laisse prendre par ce truc-là.
Ça devient un duo.
Ça devient un duo complètement sur un boogie, mais qui se termine aussi de manière un peu particulière, parce qu'il y a à la fin deux citations qu'on entend, ça s'appelle Chopstick, et puis un autre morceau qui s'appelle Taps, au moment où la souris est enfermée sous le couvercle, on ne le voit pas ici, mais on entend une explosion, donc Bugs Bunny essaye de l'éliminer en fermant la souris sur les touches, il ferme le couvercle, il fait exploser le tout. Mais évidemment, la souris va en réchapper, et le clavier aussi d'ailleurs, heureusement, parce qu'autrement c'est plus compliqué pour jouer. Et voilà tous ces événements qui se passent et qui peuvent être toujours connaître une perturbation. Alors c'est un élément, un personnage qui va perturber, mais la perturbation va être aussi musicale à un moment donné.
Le répertoire des perturbations est presque le même entre ce cartoon avec Bugs Bunny et le 4 concerto que vous citiez de Tom et Jerry, qui est de l'année qui suit 1947. Et donc là, c'est pareil, c'est la souris qui vient mettre un piège à souris sur le clavier pour essayer de claquer la main du chat.
Oui, on a ça dans les deux cartoons, effectivement. Alors bon, c'est évidemment Jerry dans Tom et Jerry, et c'est Tom qui est concertiste. Il faut savoir aussi qu'à l'image, on a quelque part une représentation un peu caricatural du rituel
du concert. Ouais. Hein. Il y a tout le temps de l'installation.
Le pianiste qui arrive sur scène, qui va saluer, la queue de pie. D'ailleurs, il a son, je ne sais plus comment ça s'appelle,
le
jabot qui lui revient dans la figure à un moment donné. Ouais. Et puis le temps qu'il passe à ajuster son siège, un petit peu comme un pianiste de concert, mais vu de manière hyper caricaturale. Les doigts aussi, qu'on va essayer de dérouiller. Avant de commencer à jouer, etc. Donc tout ce phénomène qu'on voit dans les concerts, qui est évidemment mis ici de manière comique, encore une fois, pour une diffusion à un public large qui va au cinéma, qui donc va voir ce rituel qu'on va retrouver dans d'autres choses, hein, quand Bugs Bunny arrive grimé comme Léopold Stokowski, qui était le chef d'orchestre dans les années 40, celui qui va diriger Fantasia d'ailleurs. Enfin, et Bugs Bunny arrive en caricature de Stokowski dans un des dessins animés.
Tom est peut-être le seul de toute cette galerie de personnages de cartoon à être un tant soit peu rigoureux musicalement.
Oui. En tout cas, les animateurs, puisque tout le début, là, tidin, tam, on remarque que les touches que joue le chat sont exactement les notes qu'on entend. Ce qui n'est pas le cas chez Bugs Bunny, où là, on va être moins rigoureux sur ces choses-là. Alors après, évidemment, ça dérive un peu. Hein, et puis de toute façon, Bugs Bunny, quand il joue en courant le long du clavier, en faisant jouer ses doigts, évidemment, on ne va pas être sur les bonnes touches. Là, c'est juste un effet comique qui est donné par l'image. Parce qu'on va arriver à donner des effets comiques à l'image avec une musique qui, elle, est sérieuse aussi. La rhapsodie hongroise de Liszt, c'est de la musique sérieuse. C'est pas une musique faite pour être comique. Mais par l'image, par la caricature du rituel du concert, on peut arriver à donner des aspects comiques à cette musique-là. Et évidemment, toutes les petites choses qui vont venir interrompre tout ça. Hein. Un petit coup de Yankee Doodle ici, un petit coup de Figaro.
Figaro qu'on évoquera tout à l'heure avec la page rossinienne. Tout d'abord, faisons entrer les gladiateurs. Marc-Antoine Boutin, je disais tout à l'heure que vous préparez une thèse sur la musique de cirque. Là, celle qu'on vient d'entendre, c'est une musique qui préexiste, qui va de cirque en cirque et sur laquelle, un peu comme dans les cartoons que l'on vient de décrire, il peut se passer toutes sortes de choses.
Oui, c'est très intéressant aussi, préexistante, cette musique, parce qu'elle n'a même pas été composée pour le cirque à la base. C'est un compositeur tchèque, Julius Fučík, et c'est une marche militaire à la base. J'imagine il y a un ton patriotique derrière. Et lorsque nous, on l'entend aujourd'hui, on l'associe au cirque, et pour nous, en tout cas, pour plusieurs, c'est la musique de cirque. Après, justement, on parlait de la question du répertoire, et c'est très intéressant parce que cette musique-là a été composée à la fin du 19e, a été réutilisée au début du 20e aux États-Unis. Et à cette époque-là, la musique militaire était très populaire. Et donc, c'est probablement que ce morceau-là en particulier, ainsi que beaucoup d'autres marches militaires ont été utilisées, et ce qui fait que nous, on l'associe au cirque plus traditionnel avec des animaux, etc. Mais si on revient aux origines du cirque traditionnel qui apparaît à la fin du 18e en France, en Angleterre, mais qui va s'exporter rapidement, la musique qui est utilisée à ce moment-là dans les cirques qui n'étaient pas sous chapiteau parce que le chapiteau n'avait pas encore été inventé, était dans des cirques en dur, qu'on appelle des cirques stables. Et c'était de la musique, des gigues, de la musique populaire. Et justement, on a eu un colloque Je fais juste une petite parenthèse, mais Musique Cirque au CNAC, le Centre national des arts du cirque, en février dernier, et il y a une chercheuse australienne, Kim Baston, qui est venue parler justement de la musique. En fait, on se posait la question, quelle était la musique de cirque à cette époque-là? Et avec un travail en archives, et elle sort de la musique, puis elle pensait au film de Kubrick, Barry Lyndon. Mm-hmm. Dans une scène, justement, ils sont à l'extérieur et ça danse la gigue avec... donc, elle disait probablement que cette musique-là pouvait être jouée au cirque. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il semble que la musique qui était utilisée dans le cirque, autant traditionnelle que contemporaine aujourd'hui, semble une musique qui soit populaire, que les gens écoutent et que... c'est ça.
D'accord. Donc, ça veut dire que si c'est des marches militaires, c'est pas en tant que militaires qu'elles sont là, mais c'est parce que c'est des musiques de rue, à des moments donnés, qui vont être reprises par les musiciens, en gros, qui se trouvent là.
Ouais, il semble que ça soit ça, oui.
Le lien avec les cartoons, c'est qu'on a potentiellement une sorte d'analogie entre une musique que l'on connaît, qui se déroule là, et qui va être accidentée à mesure que des péripéties dramatiques, plutôt sympathiques et drôles, vont se dérouler.
Ouais.
Et vont jouer avec le déroulement de la musique aussi.
Oui, je vous écoutais, Philippe Gonin, il y a énormément de liens à faire entre musique de films d'animation et cirque, notamment la question du Mickey Mousing. Par contre, probablement que oui, ça a été utilisé à un degré très étroit entre musique et gestes, mais je ne sais pas si c'est vraiment la norme. Parce que peut-être que, en tout cas, moi, je m'intéresse beaucoup au cirque plus contemporain, et dans ce qui serait plus contemporain, ce serait peut-être moins intéressant que ce soit tout le temps le premier degré.
Le premier degré, c'est-à-dire le côté temps par temps. C'est-à-dire un événement dans la musique correspond à un événement sur la scène.
Ouais, on pourrait vouloir chercher d'autres sens, quelque chose d'une poétique et qui puisse vouloir être plus profond que seulement le premier degré direct comme ça. Quoique, ça arrive aussi qu'on vienne ponctuer un geste avec une musique.
Ou un effet sonore. Ouais. C'est quoi le Mickey Mousing, Philippe Gonin?
Le Mickey Mousing, c'est vraiment le synchronisme entre ce qui se passe à l'image, le rythme de l'image et le rythme que va donner la musique. Je prends un exemple, mais qui n'était pas dans le... parce que c'est celui qui me vient à l'esprit, que j'ai étudié il n'y a pas très longtemps. J'ai travaillé sur la musique de Paul Misraki, et notamment pour Ali Baba et les 40 voleurs. Et à un moment donné, Fernandel va dans le RM essayer de retrouver la fille qu'il vient d'acheter pour son maître, etc. Enfin bon, toutes les péripéties. Et la musique n'est pas du tout Mickey Mousing au départ, mais lorsqu'il essaye de pénétrer de manière comme ça, très, très discrète, on va avoir quelque chose qui va suivre ses pas. Donc lui va marcher et on va avoir boum, tim, tum, tim, 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 tum, 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 tum. Et ça va correspondre à chacun de ses pas à l'écran. Le Mickey Mousing, c'est ça. Et c'est pratiquement ce qui a été inventé avec le Steamboat Willie, qui est le premier, donc historiquement, cartoon parlant, où pratiquement tous les gestes de Mickey ou des personnages que l'on voit sont illustrés musicalement ou avec des bruits, peu importe. Hein, le bruit peut faire partie intégrante de la bande-son, enfin fait partie intégrante de la bande-son, et donc on peut très bien ponctuer un élément musical par un élément de bruit. Comme on monte, il est en train de jouer sa Rhapsodie, puis d'un seul coup on a le téléphone. Donc le gag du téléphone va arriver là, ça va interrompre la musique, on va avoir un dialogue à ce moment-là, ou quand il dit « liste, je connais pas ». Mais tous les événements musicaux vont coller rythmiquement à l'image, pour faire simple.
Mais tous les événements dramatiques dans leur dimension sonore vont eux-mêmes être calés pour être dans la musique.
Ah oui, complètement. On va avoir des éléments qui sont censés faire peur, hein, un accord qui va être tenu un peu dissonant. On peut très bien, par exemple, cette ponctuation que j'ai donnée tout à l'heure, « toum, toum, ti, toum, 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 ti ». Bling, un accord très, très dissonant, parce qu'il va arriver doucement vers quelque part, et là, d'un seul coup, il va avoir peur. Donc la musique va suivre ça.
Et si ça s'appelle le Mickey Mousing, c'est parce que c'est dans les films de Mickey que ça commence.
C'est parce qu'avec Walt Disney, les films de Mickey, que ça commence, effectivement. Ouais.
On peut trouver des exemples au cinéma, même au cinéma qui n'est pas d'animation, alors?
Oh oui, bien sûr, oui.
On
oui.
a par exemple...
Ali Baba, c'est un film d'animation, et on a du Mickey Mousing, on peut en trouver partout.
On peut en trouver par exemple dans Le Corneau, qui est un film de 1965, où on a toute une scène où tous les bruits de plateau s'interrompent pour laisser la tarentelle de Rossini s'installer, et là on voit Louis de Funès faire tout un sketch dans...
Oui, alors c'est effectivement du Mickey Mousing dans le sens où Tous les gestes de Louis de Funès qui travaille ici comme dans un slapstick, il est muet. Donc on va avoir le comique qui va être par le geste, va suivre le rythme de la musique. Avec cette chose particulière, c'est qu'on a calé le montage de l'image sur une musique qui existait déjà, on n'a pas modifié la pièce. Et puis ça donne cette scène phénoménale dans le garage, dans le corneau, effectivement, que tous les gens ont sans doute à l'esprit et dont on va voir la musique.
Et dont à la radio, on ne peut garder que la partie Rossini. Ouais. On entend quand même par-dessus la musique de Rossini extrêmement bien synchronisé.
Exactement, oui. Mais je trouve, c'est quelqu'un qui avait un sens du rythme, à la fois dans le gag, et là on le voit évidemment dans la scène, qui était absolument phénoménal. Alors, on peut trouver ça agaçant, on peut trouver ça ce qu'on veut, mais on ne peut que reconnaître que l'acteur Louis de Funès avait un sens du rythme qui était vraiment, vraiment, vraiment immense.
Les artistes de cirque, Marc-Antoine Boutin, ils doivent être musiciens pour pouvoir caler leur numéro sur la musique?
Je dirais que s'ils le doivent, c'est une bonne question.
En tout cas, il y a une collaboration avec les musiciens.
Et en tout cas, ce ne sont certainement pas tous les circassiens et circassiennes qui sont aussi musiciens. Et donc, ben justement, dans le cadre de ma thèse, c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Et je m'appuie sur la... En fait, je fais une ethnographie de la création musicale d'un spectacle qui s'appelle Vivre, avec le V entre parenthèses.
Et puis un accent circonflexe sur le I aussi.
Et oui. C'est ça. Donc ça fait Ivre, Vivre. Il y a toute une... En tout cas, plusieurs manières de le voir.
Une ambiguïté volontaire.
Oui. Et du collectif Circa Tuica, qui est un collectif au sein du plus grand collectif qui est le Cheptel Alecum. Circa Tuica, c'est une fanfare cirque. Et leur ADN, si on peut dire comme ça, eux-mêmes se définissent comme une fanfare cirque qui fait du mu-cirque. Et comment cela se définit pour eux, c'est que en fait, la musique n'a de sens qu'en faisant du cirque, et le cirque aussi n'a de sens qu'en faisant de la musique. Donc les deux sont très, très dépendants l'un de l'autre. Et pour donner un exemple, pour que vous ayez une image en tête, en fait, ils aiment beaucoup faire et présenter des déroulements scéniques en collectif, et donc ils font du vélo acrobatique, et ce qui leur permet à la fois de jouer de la musique en faisant du vélo et en faisant plein de prouesses en même temps. Et on peut se demander aussi si tout simplement jouer de la musique en faisant du vélo, ça, c'est pas une forme de prouesse aussi. Donc il y a plusieurs chorégraphies, et la musique aussi est composée par deux compositeurs et qui compose pour tous les circassiens qui aussi jouent de la musique. Et les deux compositeurs font aussi du cirque. Donc, c'est particulièrement intéressant dans le cadre de ma thèse.
Parce que dans le cirque traditionnel, on a le musicien qui fait le roulement de tambour et qui, en définitive, attend le sommet de l'acrobatie pour faire aboutir son roulement de tambour. Alors que dans ce que vous décrivez, on a une telle collaboration entre les musiciens et les acrobates que ce sont parfois les mêmes personnes et que tout est emboîté. Ouais.
Oui, ben justement, il y a cette question de la flexibilité où... Là, dans ce cas-ci, c'est un cas très particulier où c'est les musiciens qui font du cirque aussi, mais ça reste une exception, mais il y a plein de choses, je crois, qui vont être intéressantes à montrer. Mais reste qu'en général, lorsqu'il y a des musiciens live, qu'on peut dire, par rapport à un enregistrement où là, c'est non flexible, ceux qui font du cirque, ben, sont obligés de se caler sur l'enregistrement. Quand on a des musiciens live, il y a justement cette flexibilité qui permet d'improviser aussi et d'improviser parfois des erreurs qui, pour les auditeurs, ben, spectateurs, spectatrices, ben, ce ne sont pas des erreurs. Mais... Donc, il y a tout traditionnellement cette question de regarder en tant que musicien ce qui se passe sur la piste et de s'ajuster. Et il y a peut-être une chose que je peux dire qui est très intéressante dans le spectacle vivre, justement, c'est que les deux compositeurs sont diplômés en jazz et font du jazz. Et donc, moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose là, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'improviser et qu'ils composent des morceaux justement avec des sections qui peuvent s'allonger, se raccourcir. Il suffit de faire quelques gestes pendant l'action et ils se comprennent. Et cette flexibilité-là, dans la forme, dans la durée, est très importante.
C'est-à-dire que ça peut se rejouer pendant la représentation elle-même. C'est pas millimétré au point que chacun fait sa partie, que tout a été réglé pour être synchronisé avant?
Ben, c'est difficile de parler pour tout le milieu du cirque. Je crois que ça peut arriver que ça soit... millimétré, justement, ça peut être une question recherchée, quelque chose qui est recherché. Dans leur cas, c'est quelque chose qui va se mettre en place, évidemment, au fur et à mesure des représentations, mais c'est pas la question primordiale.
On va écouter ces circassiens musiciens de Cirque Atuica.
La musique classique et au-delà. C'est Métaclassique, avec David Christoffel.
Est-ce que les instruments sont choisis parce qu'on est au cirque, Marc-Antoine Boutin, ou est-ce qu'on prend ces musiciens parce qu'ils jouent ces instruments parce qu'on est au cirque? Enfin, c'est la même question.
Oui, ben, c'est un peu l'œuf ou la poule, lequel vient avant. Il y a certainement
les cuivres et le cirque. Oui,
oui, ben, nécessairement la question de l'acoustique, parce qu'eux, ils sont sous chapiteau. Ils font ce qui se rapproche peut-être plus du cirque contemporain, mais cirque contemporain n'égale pas forcément chapiteau. C'est-à-dire qu'il y a tout un mode de vie qui est choisi, qui est fait par choix aussi. Là, je veux en venir, c'est que l'acoustique du chapiteau a ses contraintes aussi. Jouer des instruments en cuivre, des percussions, des instruments à vent, il y a aussi des clarinettes, des flûtes, ça projette beaucoup. Et je sais aussi que c'est peut-être moins fragile qu'un violon, c'est-à-dire que je les vois manipuler leurs instruments, puis c'est risqué pas juste pour le corps, mais pour les instruments de musique aussi. Donc la question de l'instrumentation, oui, puis aussi ben, les circassiens qui ont déjà joué de la clarinette et tout. Donc, ils étaient aussi à l'aise, mais il y en a beaucoup qui apprennent aussi, en fait, c'est-à-dire qui sont circassiens à la base et qui apprennent la musique, comme les deux compositeurs ont appris à faire du cirque aussi de leur côté.
Mais le fait que les compositeurs soient partie intégrante de l'équipe, enfin de la compagnie de cirque, est-ce que ça fait que le statut de la musique va s'en trouver modifié? Parce que on avait dans le cirque traditionnel un répertoire musical déjà là, mais aussi, semble-t-il, choisi pour bien souligner l'exploit. Là, on a l'impression que le rapport entre la facture musicale et l'exploit se trouve un petit peu distendu ou différent, ou comme si on allait plus chercher la poésie du geste et à souligner par la musique cette poésie que forcément de pointer sur la prouesse.
Ouais, c'est une très bonne question. Je pourrais pas m'avancer sur la question du statut de la musique, mais par contre, c'est certain que comme eux-mêmes font le cirque sur lequel il y aura de la musique qu'eux-mêmes composent, ça, ils ont un rapport très particulier. Et je sais que, ayant cette expérience-là, ils ont une idée peut-être plus aiguisée de quelqu'un qui ne saurait pas c'est quoi faire du vélo acrobatique. Après, oui, la question de la statue. Ça pourrait être à réfléchir de mon côté éventuellement.
Alors, voilà un bon support pour y réfléchir. Une musique qui est écrite au départ pour un ballet et qui est devenue une musique de cirque il y a quelques années. Nous entendions un extrait du Sacre du Printemps de Stravinsky dans l'interprétation de l'Orchestre de Paris dirigé par Pierre Boulez. Et vous, Philippe Gonin, vous avez assisté au spectacle conçu par Bartabas avec cette musique.
C'était il y a une vingtaine d'années, effectivement. Je l'ai vu sous chapiteau. Et c'était vraiment un spectacle extraordinaire. Je me souviens, c'était un vrai chapiteau de cirque. Donc on était dans une configuration de spectateurs de cirque, avec évidemment des chevaux, Bartabas, et tout dans des tons d'ocre comme ça. C'était vraiment assez phénoménal. J'avais vu la version originale à la télévision sur la future Arte, c'était la 7 à l'époque, donc c'était déjà quelque chose, un spectacle assez intéressant. Mais là, on mêlait le cirque, l'équitation, et une musique qui, à la fois, n'est pas faite pour ça, n'est pas faite pour du cirque, mais en même temps, c'est une musique de ballet. Et donc là, on avait vraiment un spectacle de ballet aussi, vraiment avec Bartabas. C'était vraiment, j'en ai un souvenir, je ne l'ai pas revu depuis, je n'ai pas revu de DVD, pas revu à la télévision ou quoi que ce soit, donc je garde le souvenir d'il y a 20 ans. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez phénoménal, cette espèce de mélange. Je crois que Bartabas est très très fort dans ce genre de spectacle et c'était vraiment... J'ai pas trop de mots en fait pour le dire, tellement j'ai apprécié ce spectacle à l'époque. Et je parlais de musique de cartoon comme étant une sorte de mini-ballet quelque part, c'est-à-dire qu'on a des événements qui se passent et la musique qui l'accompagne. Je pensais plus à Petrouchka, parce qu'on a un côté un peu plus festif dans Petrouchka que dans le Sacre du Printemps, mais on a ce genre d'épisodes comme ça qui s'enchaînent dans Petrouchka aussi, évidemment sur des durées plus longues que dans les 7 minutes d'un cartoon, mais je crois qu'on peut faire un rapport entre le ballet et puis... quelque part le cartoon, toute proportion gardée, hein, parce que c'est pas le même objet artistique non plus, mais on a quelque chose qui peut se rapprocher.
Mais là, on a effectivement, entre le spectacle et la musique, un jeu d'association où chacun finit par se dédier à l'autre, ce qui dépasse un peu la vieille opposition entre musique préexistante et musique originale, puisque vous insistez dans Marc-Antoine Boutin, dans le passage du cirque traditionnel au cirque, disons, contemporain, sur le fait que le répertoire n'est plus préexistant, qu'il peut être construit avec les circassiens, mais ce qui compte, c'est de faire œuvre, en fait. C'est-à-dire, c'est non plus d'avoir des numéros interchangeables et substituables, mais d'avoir une cohérence qui est construite et dont la musique peut être une des composantes importantes.
Oui, cette question-là de catégoriser et définir cirque contemporain et cirque traditionnel et d'autres formes de cirque, c'est délicat, parce qu'en fait, il y a plusieurs autres chercheurs et chercheuses qui proposent d'autres formes de catégories et définitions tout à fait légitimes. Mais moi, justement, de ce que j'en retire de mes recherches, c'est justement cette question de la recherche de cohérence qu'il y a au cirque contemporain et qu'il y a moins au cirque ou qu'il n'y a pas, en fait, au cirque traditionnel, parce que, justement, c'est un amalgame d'une succession de numéros qui n'ont pas vraiment de rapport ensemble. Il n'y a pas un fil conducteur. Et donc, la musique aussi est importante sur les numéros en tant que tels, mais il n'y a pas nécessairement une recherche de cohérence au niveau de la musique non plus. Là, quand on devient dans le cirque contemporain, tout d'un coup, ça devient de l'art. Après, les artistes, ils peuvent en faire ou non, à leurs yeux, être artistes ou non. Mais ce que je veux dire, c'est que avec cette question d'œuvre, vient une sorte de cohérence interne. Le spectacle a un titre je pourrais continuer comme ça.
Ok, alors on va pour terminer l'émission envisager la partie technique, comment elle se déplace précisément, est-ce que le sensationnalisme, la virtuosité sont toujours au même endroit. Je vous propose d'introduire cette séquence par un extrait des BBC Proms où on se met à jouer la musique de Tom et Jerry composée par Scott Bradley mais sans l'image.
Thank you.
C'est une musique qui n'en finit pas de s'arrêter, de se relancer. Finalement, c'est une musique virtuose, Philippe Godin.
Ah oui, complètement, quand on entend la virtuosité de certains instruments. Une petite chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il produisait à la chaîne ses compositeurs, hein, Scott Bradley, Carl Stirling,
oui.
qui ont été des arrangeurs orchestrateurs. Parfois, ils ne sont même pas crédités comme compositeurs, ils sont crédités comme musical arranger, enfin, juste les arrangements musicaux. Ils avaient aussi très peu de temps pour composer. Mais la MGM, tout comme la Warner Bros, avait, il me semble, des orchestres à domicile, aussi à demeure, qui étaient là pour enregistrer les musiques de films, parce que il y a un développement dans les années 30 de ce qu'on appelle le symphonisme hollywoodien aussi, hein, avec toutes les musiques de films qui vont aussi des musiques comme dans King Kong par exemple de 1933, qui est pratiquement du début à la fin, ce que fait bien des années après, enfin 40 ans après, John Williams avec Star Wars. On a une musique qui commence avec le générique et qui finit avec le générique de fin. Il y a très peu de moments où il n'y en a pas. Donc on est aussi dans cet esprit là il ne faut pas non plus l'enlever de cette époque là sachant qu'en plus on est obligé de donner corps à des personnages qui n'existent pas. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des...
Mais là, c'est une sous-catégorie du symphonisme hollywoodien, quand même, oui, très particulier, avec ses caractéristiques propres, puisqu'il faut...
Parce qu'on doit avoir le rythme, etc. Là, dans ce qu'on vient
d'entendre, les bruitages en direct, enfin, ouais.
On a entendu tout un tas de citations, et même à un moment donné, les espèces de klaxons, à mon avis, ce qu'ils pouvaient avoir en tête, c'était l'Américain à Paris de Gershwin, où on a cette fameuse pap-pap-pam, pip-pip-pim, pam-pam-pam, qu'on a au début... ou enfin, en tout cas dans les premières minutes de l'Américain à Paris. Donc.
Mais est-ce que c'est Gershwin qui a influencé la musique de cartoon ou l'inverse? Parce que peut-être que...
Il faut retrouver la date de l'Américain à Paris, je ne me souviens plus de quand Gershwin a composé exactement cette pièce. Enfin, il meurt en 37, Gershwin, donc... Mais il a voulu essayer aussi de donner avec cette musique côté poème symphonique aussi, ce qu'on trouve. Je veux dire, tout le monde nous dit que le début de la Moldau, c'est la source, puis la petite rivière, le petit ruisseau, puis la rivière, etc. Puis quand le grand thème arrive, c'est le fleuve majestueux, etc. Et donc quand on est sur la Moldau, j'ai fait ça il y a 2 ans à Prague, j'ai fait du bateau sur la Moldau pour
vérifier si c'était la source de la
musique. Sur le bateau qu'ils y avaient mis, ils avaient mis la Moldau. Donc forcément, j'étais influencé par tout ça, mais... Voilà, on a des images qui nous viennent, on a aussi des archétypes qui nous viennent, et puis la citation des thèmes, elle est aussi pour raccrocher les gens à des choses, à des thèmes qu'ils connaissent, des musiques qu'ils connaissent, pour une raison ou pour une autre, parce que ça passe à la radio, parce que cette musique est enregistrée, parce que cet air-là d'opéra est enregistré par Caruso, et que Caruso a vendu des milliers de disques, voire des millions de disques, et qui était un des premières vedettes de musique classique, etc. Donc,
et les airs d'opéra arrivent aussi au cirque, on a parfois Aïda qui débarque comme ça.
Oui, puis ça participe d'un peu ce que je disais au début, justement, que les airs connus, c'est ça, Aïda ou d'autres airs d'opéra connus, ben, les cirques, je veux dire, quand ils veulent attirer du public. Et en faisant jouer des airs connus, les gens se sentent, les connaissent, et là, c'est le bouche à oreille, ça en passe. Donc,
oui, il y a une communauté qui se fait entre le spectateur, aussi bien au cirque que devant des animés. Ah, voilà, oui, évidemment, et ça amène des images.
Mm. Ouais. Puis, comme on en disait justement au début aussi, là, dans ce cas-là, c'est de la musique préexistante qui n'a rien à voir aussi avec le cirque, qui est réutilisée. C'est déjà arrivé par le passé où qu'il y a des musiques composées pour le cirque, mais il me semble que c'était pas la norme. C'est-à-dire qu'on réutilisait beaucoup plus des musiques existantes et justement des airs connus, d'opéra en l'occurrence, mais de beaucoup d'autres genres musicaux aussi.
C'est aussi que le chef d'orchestre et le ténor d'opéra font d'excellents personnages cartoonesques.
Oui, complètement, oui. Oui.
On a des exemples chez Bugs Bunny notamment.
Oui, qui dirige un ténor, donc comme si on a les deux dans le même dessin animé. J'en parlais tout à l'heure, il y en a plusieurs avec des chefs d'orchestre. Celui-ci, j'ai oublié le titre, il est déguisé en Léopold Stokowski. Il suffit de regarder Fantasia pour revoir le personnage parce qu'on le voit de dos en train de diriger. Et là, il a tout à fait ça. Et les gens se taisent, les musiciens se taisent lorsqu'il entre en scène avec sa perruque, etc.
Et je crois que même si on ne l'a pas vu, rien qu'à la radio, on va pouvoir entendre le rapport de sadomasochisme qui peut s'établir entre le lapin et le ténor.
Ah, ah,
Oui, c'est phénoménal.
C'est dur d'être un chanteur d'opéra au cartoon.
Au cartoon, oui. Tout comme c'est difficile d'être représenté chef d'orchestre au cartoon.
Oui.
Parce que tous les défauts y sont, en fait. Tous les maniérismes qu'on retrouve dans un concert classique, hein, c'est comme pour quatre concertos, quand il entre en scène avec la queue de pie, avec tout ça, c'est vraiment phénoménal de voir à quel point le rituel, en fait, est caricaturé. Mais pas forcément caricaturé. Enfin, ici, il est caricaturé pour faire rire, mais il est même parfois tourné en ridicule. Mais malgré tout, ce rituel est repris. On le retrouve aussi dans La Panthère Rose, je crois. Il y a quand même gag dans La Panthère Rose et dans. Je ne me souviens plus du nom de l'épisode de La Panthère Rose, mais dans le Rhapsody Rabbit, à un moment donné, il y a. Et ça, ça fait partie aussi des choses qu'on a dans le public. Il est en train de jouer le début de sa Rhapsody, puis il y a un spectateur qui tousse. Ça l'énerve, il sort un flingue, il le descend. Même chose, on retrouve le même gag dans La Panthère Rose quelques années plus tard. Voilà. Donc le personnage qui tousse au moment d'un silence dans une salle d'orchestre, tout le monde a connu ça. C'est le moment où il ne faut pas. Et le moment où il y en a trois ou quatre qui toussent, c'est celui-là.
Et le soliste qui vient avec un vrai revolver dans la vraie vie, je crois que c'est arrivé, non ?
Je ne suis pas sûr.
Ouais.
Je ne sais pas.
Quand on a beaucoup entendu la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt sous les doigts de Bugs Bunny, de Tom, est-ce qu'on peut encore l'entendre de façon neutre ?
Oui, bien sûr, oui.
Adorno disait que non.
Qui ? Adorno ? Oui, mais Adorno... On ne va pas partir sur Adorno, on va faire une heure supplémentaire. Je ne suis pas tellement un adornien.
Oui, puis c'est la fin de l'émission.
Mais c'est vrai qu'il a une citation que je n'ai plus en tête, mais que je cite dans mon article, où il parle de ceux qui ont décidé un jour de mettre Lohengrin dans un dessin animé, sont des idiots ou des imbéciles. Enfin, c'est du Adorno, pur sucre, évidemment.
On va écouter une version Duke Ellington pour se quitter de cette deuxième rhapsodie.
Oui, oui. Duke Ellington l'a reprise. Alors, c'était avant les dessins animés. C'est dans un film qui s'appelle Murder at the Vanities. Alors, je ne sais pas si c'est cette version qu'on a retrouvée. Mais en tout cas, ça a été enregistré sous le nom d'Ebony Concerto. Alors, il faut bien tendre l'oreille cette fois pour repérer Liszt. Mais il est là.
Des bouts de Liszt. Merci, Philippe Gonin.
Merci.
Merci, Marc-Antoine Boutin.
Merci beaucoup.
Instead of playing music like you do, they supply a little classical voodoo. They keep swinging while they're singing Ebony Rhapsody. It's got those licks, it's got those tricks that Mr. Litz would never recognize. It's got that beat, that tropic heat. You shake until you make the old thermometer rise. Oh Lordy, yes, they wear bandanas, go to market singing torrid hosannas, swaying to that Ebony Rhapsody.